Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Et je vous propose une réflexion qui va nous amener au choix de la vie. Alors, donc, dans l'évangile de Matthieu, nous allons lire un texte, et c'est une méditation, c'est une réflexion qui est de tous les temps, hier, aujourd'hui. Celle d'hier nous confronte entre deux hommes, Jésus et Barabbas, et puis les questions d'aujourd'hui dans les choix difficiles. Alors ce ne sont pas seulement des choix personnels, mais il y a des choix collectifs qui engagent le monde, et puis il y a des choix qui nous sont propres et qui peuvent aussi engager notre vie. Alors dans l'évangile de Matthieu, nous allons lire ce passage, puisque les choses nous sont dites par deux fois d'ailleurs. Il y a un texte dans l'évangile de Matthieu et puis un autre texte qui relate la même situation et les mêmes questions dans Matthieu chapitre 27. Voilà, Matthieu chapitre 27, nous allons lire attentivement ce petit paragraphe et il nous met en demeure du oui ou du non. Et c'est pas une petite affaire, comme vous allez le constater. Il y a des indifférents, il y a des imprudents, il y a des gens qui, finalement, tant que ça ne les touche pas eux-mêmes, eh bien, resteront dans l'indolence, dans l'indécision, dans l'indifférence. Mais là, c'est quelque chose que nous allons prendre en compte et qui nous atteint au plus profond de notre conscience. Et je lis le texte. Voilà, Matthieu 27, 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit : « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ? » Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, lui dit : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent : « Barabbas. » Pilate leur dit : « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ? » Tous répondirent : « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit : « Mais quel mal a-t-il fait ? » Et ils crièrent encore plus fort : « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit : « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Alors c'est quand même une histoire troublante et qui a marqué le temps, qui a marqué l'histoire, elle a traversé les siècles, puisque aujourd'hui nous le lisons encore. Ça aurait pu être un fait qui aurait été oublié, qui serait évaporé dans le temps qui passe, parce que des situations comme ça, il y en a eu d'autres, ça c'est clair. Des gens qui sont condamnés à la place des coupables qui normalement auraient dû avoir le sort normal selon la justice, mais qui finalement, eh bien, ont continué allègrement leur jour en pleine liberté. Alors, c'est vrai que ça pose quand même quelques interrogations. Et la première, elle se décline en deux mots. C'est le procurateur romain qui va la poser à la foule et qui va dire ces choses : « Lequel des deux ? » Voilà. S'il y en avait qu'un, ce serait plus simple. Mais justement, le problème, c'est le choix. Et le choix, eh bien, il y a au moins deux parties. Voilà. Et ça devient une véritable complexité pour l'âme humaine, parce que il y a des raisons, finalement, d'absoudre Jésus. Il y a certainement tout autant des raisons de condamner Barabbas, parce qu'on l'a vu. Naturellement, il nous a été donné en quelques mots, on le reverra un peu plus dans le détail d'ici quelques instants. Et nous voyons que tout dépend du mobile, de l'état d'esprit et de l'état d'âme des juges. En l'occurrence, les juges, il y a celui qui va donner l'application de la peine, de la condamnation, c'est Pilate. Mais dans les juges, il y a deux catégories. Il y a les magistrats, les prêtres, tous ces gens de la haute société d'Israël, qui, quelque part, n'attendent qu'une chose, de satisfaire leur envie de faire disparaître Jésus. Et puis il y a la foule, qui est là, qui, aujourd'hui, est en train de dire « nous voulons qu'il soit crucifié ». Et puis, hier encore, c'était cette même foule qui disait « mais Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors, c'est quand même un peu complexe tout cela, parce que, en fait, de jugement, c'est vraiment fragile. Mais ainsi est le monde, et l'actualité nous rapporte encore des choses assez étonnantes, parfois dans des dénis de justice, et qui fait que, on choisit le mauvais ou le mauvais parti, et puis on va éliminer le bon. Alors, dans tout cela, je rappelle la question, mais lequel des deux ? Alors, je sais que si vous êtes là cet après-midi, maintenant vous connaissez l'histoire. Je suis sûr que vous aurez bien choisi, naturellement, et par-delà notre pensée de vouloir crucifier Jésus, puisque nous avons passé la barrière, il est notre sauveur et le Seigneur de notre vie, alors naturellement. Mais on s'aperçoit qu'il y a tellement de confusion dans l'âme humaine, tellement de désirs, tellement de choses bonnes et mauvaises, peut-être davantage mauvaises que bonnes, parce que ça met en jeu, ça met en marche toute une mécanique tellement compliquée dans l'humanité. Je dirais que l'alternative ou le choix, le libre arbitre, l'alternative, on va rester là-dessus, est un fait qui caractérise l'humanité. Voilà. Dans les choses inanimées du monde, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Je donne quelques exemples, tout simplement. La pierre ne choisit pas la pente dans laquelle elle va dévaler. Elle est entraînée et c'est terminé, ça s'en va comme ça. La plante ne va pas choisir le sillon dans lequel elle va pouvoir au moins se développer et devenir une plante stable et enracinée. Et puis, le vent emporte les graines, comme ça, tout simplement. On pourrait dire que c'est le hasard, c'est la vie. C'est comme ça, c'est la nature, peut-être pour préciser. Peut-être une petite différence, mais qui n'est quand même moindre par rapport à la capacité humaine de choisir. C'est l'animal qui a une conscience, qui peut avoir quelques sentiments, mais elle est tellement, cette conscience tellement obscure, tellement imprécise, qu'il va réagir avec l'instinct qui lui est propre. Et il va suivre une loi qui est la loi de l'animal, tout simplement. Mais il ne choisit pas, tout simplement. Les choses sont ainsi. Alors, parmi les dans la création de Dieu, l'homme choisit. Et c'est le grand drame du début de la Bible. Voilà. Je mets, en quelque sorte, dans la création initiale, devant Adam, Ève, Adam en particulier, le choix entre deux arbres. Celui de la connaissance du bien et du mal, et celui, l'arbre de la vie. Et l'homme était libre. L'homme avait une conscience de Dieu. L'homme savait que Dieu était bon. Il était bon, il l'avait créé pour, finalement, eh bien, une bonne vie, pour le bonheur, dans un univers qui avait été jugé par Dieu comme très bon. Et voilà qu'il choisit le contraire. Et c'est la porte ouverte à toutes les ambiguïtés, à tous les tiraillements de conscience, à des choix qui sont des véritables supplices, des problèmes de conscience, la culpabilité, et tout vient en même temps. C'est comme s'il y avait une digue qui venait de s'ouvrir avec fracas et qui laissait rentrer, toutes sortes de choses, le bon et le mal. Après, quand tout est mélangé, quand tout est renversé, quand tout est imprégné de boue et de toutes sortes de choses, allez choisir. C'est pas simple. Parce que justement, comme je le disais ce matin, c'est pas blanc, c'est pas noir, mais c'est gris. Alors, dans ce gris-là, dans la grisaille, dans le brouillard comme ce matin, on n'y voit pas très clair. Et c'est ça le problème. Donc l'homme a la capacité de choisir. Il y a deux choses qui ressortent de ce choix, c'est que ça peut être son plus grand honneur à l'homme. Quand il choisit bien, Quand il choisit juste, quand il choisit avec exactitude, c'est son honneur, il se grandit à ce moment-là. Parce que il applique les lois créationnelles. C'est vrai. Parce qu'il y en a un qui nous a fait cette promesse. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi. Je te conseillerai. Et je serai, eh bien, avec toi. Vous connaissez, c'est le psaume 32, verset 8. Voilà. Même encore, si nous nous en prenons à ce que Moïse dira au peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, et Dieu parlera d'une manière sentencieuse, il dira par la bouche de Moïse, parce que là, maintenant, les choses sont à faire. Ils vont rentrer dans le pays de Canaan, après tant et tant de siècles de souffrance. Et Dieu va parler par Moïse, il lui dira, voilà, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. C'est Dieu qui conseille à ce moment-là. Choisis la vie. Et alors, à ce moment-là, eh bien, tu comprendras que tu pourras prolonger ta vie sur la terre, tu seras heureux et tu seras béni. Ne choisis pas la mort. Et encore une fois de plus, lorsque nous vérifions dans l'histoire de l'implantation du peuple d'Israël en Canaan, ben, ils n'ont pas toujours choisi la vie. Et des problèmes, ils en ont eu. Alors, c'est son grand honneur quand il choisit bien. Mais ça peut être aussi son péril. C'est ce que nous allons voir. Non pas pour Jésus. Jésus va être crucifié, il va mourir, mais il ressuscitera. On n'a pas à se soucier pour lui. Mais en ce qui concerne Israël, ça va être son grand péril. Que ce soit les institutions politiques, que ce soit les institutions religieuses, que ce soit le peuple d'Israël, ça va être terrible. Ça fait 2000 ans qu'on en parle encore. De ce peuple qui va partir en errance, qui va partir à la diaspora et qui finira de temps à autre dans des pogroms, qui finira dans les camps de concentration, qui, fort heureusement, est revenu finalement dans sa terre. Mais ça fait 60 ans seulement. Hein. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Alors, honneur, péril, tout cela est mis devant nous et tout cela à cause d'un choix. Et surtout, n'essayons pas d'arracher à la conscience humaine, eh bien, ce sentiment qui est un sentiment de l'individu, le sentiment de sa responsabilité. Parce que c'est ça la question du choix. On fait des choix et on dit, non, c'est l'autre. C'est la société, bien sûr. C'est tous, sauf moi. Et quelquefois, avec toutes sortes de lois bizarroïdes ou iniques, on a essayé de faire croire aux gens que, quelque part, eh bien, il n'y avait pas de bien, il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de justice, il n'y avait pas d'injustice. Et on a essayé d'inculquer à la conscience, et ça c'est peut-être notre monde d'aujourd'hui plus marqué, eh bien, de lui enlever son sentiment de responsabilité. On a tous entendu parler des procès de Nuremberg, et chacun se défaussait en disant, et même les plus grands criminels de guerre, les exterminateurs hein, de haut vol, disaient, ben non, non, ce sont des ordres que nous avons reçus. 6 millions de personnes brûlées. Ce n'est pas de votre faute? Vous n'étiez pas là? Vous n'avez pas vu? Vous n'avez rien fait? Non, bien sûr. Ça, c'est quelque chose de terrible. Et encore aujourd'hui, on se défausse toujours en accusant l'autre. Eh bien, justement, le privilège de l'homme, c'est d'être libre. Et une des marques de la liberté, c'est le choix. Je choisis oui, je choisis non. Si j'ai choisi oui, Jésus nous le dit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et on a tout intérêt à choisir le bien et à choisir le juste. Parce que tôt ou tard, il va y avoir des retombées. Ah, mais bien sûr, peut-être vous me direz, mais choisir le bien, c'est pas facile. Dans un monde où il y a des vagues, où il y a des tempêtes, où il y a des ouragans, des déferlantes, nous pourrions dire, d'opposition. Ah, bien sûr. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que les chrétiens ont fait dans les temps des premiers siècles? Qu'est-ce que, quelquefois, encore aujourd'hui, dans certains pays, je pense dans les pays hein, où l'Église est persécutée, mais il y a des choix qui sont courageux. Eh oui, mais au moins on a la conscience tranquille. On sait qu'on a fait ce qui devait être fait. Donc, liberté dans l'alternative. L'épisode qui nous est donné cet après-midi, c'est deux noms. L'un ou l'autre. C'est Jésus ou Barabbas. C'est simple, hein, c'est pas trop compliqué. Il y a des problèmes qui sont plus difficiles. Hein. Il y a des problématiques qui sont quand même beaucoup plus compliquées dans leur énoncé. Hein. Faut aller là, essayer de deviner, de percer, de bien comprendre l'énoncé. Mais là, c'est simple. Vous avez deux choses. On pourrait dire même à la limite, c'est le jour et la nuit. Voilà, tout simplement. C'est le bien, le blanc et le noir. Bien que je ne veux pas surcharger Barabbas, mais à la lumière de Jésus et côte à côte de Jésus, on peut dire que c'est quand même le jour et la nuit. et on va le voir ensemble. Donc, il y a là, finalement, Jésus et Barabbas, et on est devant certainement l'alternative la plus tragique de l'histoire de l'humanité. Parce qu'on parle encore du jugement de Jésus. Deux hommes pour une croix. C'est vrai que c'est quand même assez curieux. Il y aurait deux hommes, comme dans nos élections, deux hommes pour une présidence de la République. Bon, il y en a un qui va pas être content, hein, ça c'est sûr. Il y en a un qui va être très heureux, naturellement. Mais là, c'est pas pour le meilleur, vous comprenez? Parce que la croix, c'est quand même l'emblème d'une condamnation à mort. Alors, évidemment, devant ce genre de trône d'ignominie, de honte, personne ne veut y aller. Hein. Enfin, si, Jésus, non seulement va y aller, mais il veut y aller pour que nous ne nous y allions pas. C'est ça la question. Le grand débat, c'est autour de ça. C'est celui qui va finalement dire, qui va prier Dieu, et on le voit à la croix, qui va dire, Seigneur, tu me punis moi, mais tu ne les punis pas eux. Et s'ils croient en moi, ils seront sauvés. Ils ne seront plus condamnés. Et ce qui fera dire à Paul, ce message que j'aime beaucoup, parce qu'il est quand même essentiel, dans la prédication de l'Évangile, il nous est dit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux. Parce qu'il y a un choix. Je choisis Jésus comme juge, ou je choisis Jésus comme sauveur. Et voilà, les choses sont réglées. Mais vous allez me dire, c'est pas si simple que ça. Donc, il y a deux hommes pour une croix, tout simplement. Et il y a cette foule. Cette foule qui est surexcitée par, on pourrait dire, là, toute cette monoclature et cette, toute cette société de religieuse qui est derrière et qui va pousser, finalement, qui va souffler le feu, qui va utiliser cette foule qui est massée devant le prétoire. Et c'est elle qui va dire qui doit être sauvé, qui doit être perdu. Qui va être condamné, qui va être absous. C'est elle qui va prononcer. Vous savez, nous sommes dans une société démocratique, c'est une bonne chose. C'est vrai, personne ne va le constater. Hein. Pouvoir totalitaire, on voit de quoi ils sont capables. Hein. Pour garder le pouvoir, souvent. Mais demander, dans une situation comme ça, eh bien, à la foule de choisir, je peux vous dire qu'il va y avoir de la bagarre. C'est terrible, hein. Terrible qu'une foule, surtout surexcitée, une foule qui hier disait et applaudissait ou acclamait Jésus, et qui le lendemain même est en train de demander sa mort. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre cette versatilité, cette imprécision, ce balancement de droite et de gauche, d'une extrême à une autre, et finalement, eh bien, ça ne pourrait s'appeler qu'un caprice. Oui. Le monde est capricieux, hein. Ça dépend de ses humeurs, ça dépend de ses intérêts surtout. Ça dépend de ses ressentis, voire même ressentiment pour ne peut-être pas dire la haine. Mais avoir de la haine contre Jésus, en sachant que tout ce qu'il a fait, tout ce qui nous est dit dans l'Évangile, le bien qu'il a fait, lui qui allait de lieu en lieu faisant du bien pour délivrer les hommes de la puissance du diable, guérissant les hommes, les sauvant. Et voilà. Comme quoi le bien fait, on peut l'oublier très vite, hein, naturellement. Alors, cette foule va être quelque part sur le siège du jugement pour désigner celui qui va mourir. On va parler de l'un et de l'autre, parce qu'il faut instruire le procès. Hein. Moi, je ne suis pas procureur cet après-midi, mais c'est pour nourrir un petit peu l'histoire biblique et de comprendre la gravité de ce choix en particulier. Le premier, on le connaît bien, c'est Jésus. Il vient d'un petit village de Galilée qui s'appelle Nazareth. On le dit prophète. Oui, on le dit prophète, et il allait d'une ville à une autre, d'une région à une autre, d'une province à une autre. Et le seul chose qu'il a fait, c'est qu'il consolait les affligés. Il guérissait, nous dit l'Évangile, les malades. Il apportait la paix aux consciences troublées. Et il faisait tellement d'autres choses. Il faisait venir le surnaturel du ciel sur la terre, ouvrir les yeux des aveugles, entendre les sourds, marcher les paralytiques, changer l'eau en vin, multiplier les pains, ressusciter les morts. Ça mérite la condamnation, tout ça. Hein. Faire du bien, il faut que ça soit puni, hein, de la plus grande sévérité. Mais c'est ce que nous rappellent les quatre évangiles, oui, de Matthieu à Jean. Et tout cela, nous le savons. Et un jour, la foule enthousiaste, va même tellement aller te subjuguer, exalter de ce qu'elle entend dire de Jésus, des paraboles, des enseignements pleins de bon sens qui touchent le cœur, qui renversent. Elle voit les miracles, et particulièrement celui après la multiplication des pains, vous savez, 5 pains et 3 poissons qui deviennent milliers. Ah, ça, on n'avait jamais vu ça, naturellement, ça tire du monde, hein, surtout pour ceux qui ont faim. Mais toujours est-il que cette même foule enthousiasme, un jour nous dit l'évangile, je crois, de Jean, qu'elle voulait l'enlever pour le faire roi. Jésus, roi des Juifs? Oh là là, ça c'est dangereux, hein. Quand on commence à toucher un tant soit peu à la politique, ça fait mal. Il y avait d'abord un petit roitelet, soyons gentils avec Hérode, roitelet, hein, petit, mais qui se prenait pour un empereur. Et puis il y avait l'empereur à Rome, alors lui c'était autre chose, hein. Lui il régnait pratiquement sur toute une grande partie de la terre. Mais un pauvre paysan qui sort d'une terre complètement obscure, la Galilée, d'un village qui est complètement inconnu, et voilà que voilà le peuple d'Israël qui veut le faire roi. Vous savez ce que Jésus fait à ce moment-là? Discrètement, il passe à travers les uns les autres, il s'enfuit. Voilà. Il nous a dit qu'il aura échappé. Et heureusement. Hein. Parce que vous savez ce que Jésus aurait fait à ce moment-là? Il aurait tout simplement répondu à la deuxième proposition du diable, la deuxième tentation. Tu vois tous ces royaumes, toute cette richesse, toute cette beauté, toute cette force, toute cette puissance. Eh bien, si tu me la demandes, le diable dit ça, hein, si tu me la demandes, si tu te prosternes devant toi et m'adores, je te la donnerai. Jésus a bien compris le subterfuge. Il a bien compris, finalement, eh bien, le piège. Jésus passe outre. Peut-être que ces juifs qui vont demander sa crucifixion ont été déçus, qu'il n'ait pas accepté la royauté. Mais Jésus n'était pas venu pour régner sur la terre. Il était venu régner dans le ciel. Il est venu régner dans le ciel, pas sur la terre, mais qui nous sommes sur la terre, et bien que nous puissions régner avec lui dans le ciel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous comprenez? C'est un règne qui est tout autre. Alors, ça c'est Jésus. Et puis l'autre, c'est Barabbas. Barabbas, comment le définir? C'est un homme de peu. Pas forcément très intéressant. C'est un homme, un repris de justice. Ah, lui, il est vraiment dans le cadre, hein, tout à fait, hein. C'est un fomenteur d'émeutes, de manifestations, de révolutions. Allez, disons-le, c'est un assassin, un homme qui a du sang sur les mains. Vous avez Jésus, qui a fait avec ses mains, eh bien, une bénédiction divine sur tout le peuple. Et vous avez l'autre, qui a fait de ses mains, tout simplement, eh bien là, des crimes où le sang a coulé. Il s'est servi de ses mains pour faire couler le sang des autres. Donc, les choses sont présentées de cette manière. Mais est-ce que c'est une alternative quand on doit juger entre l'un et l'autre? On pourrait avoir d'autres possibilités, naturellement. Alors on va revenir à Jésus. Jésus porte un nom, il s'appelle le bienfaiteur, celui qui fait du bien. Et va-t-il être délivré par les acclamations de la foule? Tout le monde le sait, hein. Alors la foule, à ce moment-là, quand Jésus va être présenté devant par Pilate, elle va hurler, parce qu'elle est poussée à l'instigation des prêtres, des religieux, des docteurs de la loi qui sont derrière. Elle va pousser ce cri tout simplement, « Relâche Barabbas et crucifie Jésus ». Ça, c'est le monde à l'envers. Mais est-ce que vous ne croyez pas que quelquefois, dans le monde d'aujourd'hui, dans les médias, dans ce que nous rapporte quelquefois, on croirait marcher sur la tête? Il y a des fois, il y a des choses, des nouvelles, enfin, il y a des situations, on se dit, mais attendez, la terre, elle tourne dans quel sens, hein? Vraiment, parce qu'on se dit, mais il y a un bon sens. Et pourtant, on ne comprend pas. Vous savez, ceux qui sont victimes de cette ignominie, de ce dérèglement de la société, je peux vous dire qu'ils ne rigolent pas, hein. C'est quand, quelquefois, vous avez une jeune fille qui est violée, elle a 18-20 ans, et qu'à un moment donné, voilà, on va juger le coupable, et que quelque temps après, il va être relâché et qu'il va violer à nouveau. Vous savez, c'est l'histoire là, du collège dans les Cévennes. Hein. Ben, je peux vous dire que les parents, ils peuvent pleurer longtemps parce qu'ils ne reverront jamais leur fille. Mais moi, je dis, mais quel monde! Parce qu'un psychiatre a déclaré que finalement, il était bien par moment, on pouvait le relâcher. Vous connaissez l'histoire, hein? Enfin, moi, je ne sais pas, mais moi, ça m'émeut, des choses comme ça. Ah ouais, c'est terrible. Bon, je ne suis pas un justicier, mais je dis que quelque part, dans certaines situations, qu'est-ce que l'on peut faire? Enfin, je voudrais vous raconter encore d'autres histoires, mais je ne vous les raconterai pas, vous seriez choqués. Comme les prix Nobel, par exemple. Enfin, bon, je respecte tout ce que... Mais il y a eu des prix Nobel. Bon, vous avez compris, je n'en dis pas plus. Surtout les prix Nobel de la paix. Seigneur, alors quel est ce vent de folie? Quel est ce vent de folie hier, aujourd'hui, dans la société, dans les sociétés qui a passé sur cette assemblée du moment où il y avait Pilate, il y avait un jugement entre le jour et la nuit, entre le bien et le mal, on pourrait dire. Quelle fièvre de perversité a attaché ce monde, ces hommes, à réclamer passionnément la libération du coupable et le supplice de l'innocent. Parce que c'est bien ça dont il s'agit, naturellement. Alors on voudrait pas être trop sévère avec Barabbas, parce que lui, son casier judiciaire, il était chargé. Mais même avec un casier judiciaire chargé, je crois que Dieu est encore capable de pardonner celui qui se repent. Or, il semblerait que Barabbas n'avait vraiment pas envie de se repentir. Il avait envie d'une chose, je vais vous le dire tout à l'heure. Envie d'une chose. Écoutez bien, Jésus n'a commis aucun crime. Et tout le monde le savait. Retenez bien ça. Hein? Jésus n'a commis aucun crime et toute la nation d'Israël, que ce soit du plus grand jusqu'au plus petit, du plus jeune jusqu'au plus vieux, savait que Jésus n'avait commis aucun crime. C'était un acquis, on le savait. Mais le problème de Jésus est celui-ci. Et là, ça fait pas plaisir. Jésus va apporter, et il a apporté avec lui, un programme moral et spirituel. D'accord? Pas tant moral que spirituel, parce que moi je crois que le spirituel englobe le moral. C'est pas une moralité, voilà, mais le spirituel. Et il va l'enseigner hautement. Tout le monde va l'entendre que il faut se repentir de ses péchés, qu'il faut se convertir, non pas changer de religion, mais changer de vie, qu'il faut naître de nouveau. Eh oui. Depuis 3 ans, en parcourant finalement la Judée, la Galilée, tout le pays qui est le sien, Jésus n'a jamais cessé de stigmatiser les comédiens, les acteurs, en d'autres termes, l'hypocrisie. Ceux, vous savez, qui ont 2 visages, 2 langages. Ceux qui sont là, eh bien, doubles. Ceux qui sont avec des manières pour tromper les autres. L'hypocrisie. Il a condamné le formalisme de la religion juive. Il va en dire des choses. Hein. Vous avez changé les commandements de Dieu au profit de votre tradition. Vous vous lavez les mains parce que vous pensez que vous avez les mains sales. Mais c'est pas vos mains qui sont sales, c'est votre cœur. Il va leur dire des choses. Ben dis donc, on comprend que les autres, ça les a un petit peu fait émoustiller les moustaches. Surtout qu'ils avaient tous la barbe et les moustaches à l'époque. Ouais. Il s'est opposé aux prêtres en disant que, quelque part, tout ça, c'était finalement eh bien, une belle manipulation des pauvres gens. Il s'est opposé à la religion des prêtres. Et il a parlé, dans son contraire, que Dieu attendait des hommes qui l'adorent en esprit, en vérité. Alors, à quoi ça servait le beau temple? À quoi ça servait toutes les cérémonies? À quoi ça servait l'encens? À quoi ça servait tout ça, toutes ces choses? Ça ne servait plus à rien. Et ça, vous savez, les prêtres en chômage, ils ne passent pas à Pôle emploi. Hein, ils étaient au chômage avec Jésus. Il a dénoncé l'égoïsme des grands et le péché des petits. Il a tout passé au crible, Jésus. Et ça, c'était pas fait pour leur plaire. Et il demande pour fonder le royaume de Dieu sur la terre, il ne demande pas moins qu'une régénération, qu'une transformation de la vie intérieure. Ce n'est pas l'extérieur qui compte. Ce n'est pas d'avoir des beaux habits, de faire des belles prières, d'aller au temple 10 fois dans la journée, de donner finalement son offrande, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses extérieures. Mais ce que Jésus a dit, et il a commencé par, finalement, les premières prédications étaient celles de Jean-Baptiste. Hein. Si vous ne vous repentez pas, hein, eh bien la cognée est déjà, eh bien, là, à la racine de l'arbre. Et Jésus a continué comme ça pendant 3 ans. la régénération, qui était la seule capable de transformer les mœurs, d'anéantir les traditions inutiles, où on fait les choses sans conscience, où on fait les choses par habitude, on fait les choses parce qu'on nous les a demandées sans comprendre pourquoi ça sert et à quoi ça sert. Voilà. Et qui rendait finalement, eh bien, la religion juive complètement incompréhensible. Et il a demandé à ce que tous les sacrifices inutiles, eh bien, soient abolis quelque part. Eh oui, ça ne servait plus à rien. Et les juifs l'ont vraiment pris en ombrage, hein. Ils l'ont pris au dehors. Hein. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il vient nous dire? C'est un juif comme nous? Il vient nous dire que tout ça, ça ne sert plus à rien? Alors la loi de Moïse? Oui, mais la loi de Moïse, elle doit être vécue d'une manière intelligente et non pas d'une manière routinière, avec en faisant toujours la même chose sans comprendre pourquoi on le fait. C'est ça la différence. Et les juifs se sont dit, mais alors, il est en train de nous bouleverser, il est en train de donner un coup de pied dans la fourmilière, il est en train de mettre par terre l'institution, l'établissement, et il est en train de vouloir nous faire croire que maintenant on n'est plus des juifs. Ah oui, ah oui. Même le temple, voyez ce temple-là, eh bien, je le détruirai en 3 jours, je le remonterai. Enfin, c'est ce que j'ai... Bon, quand ils ont entendu ça, ils étaient foudrages. Ils étaient foudrages, mais ils ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire. C'était pas le temple que en pierre et en brique, c'était le temple de leur vie, de leur cœur, de leur âme, de leur esprit. Il fallait qu'ils passent par une régénération. Et peut-être justement, on essayait de faire, pour ceux qui avaient bien compris le message de Jésus, mais qui n'étaient pas forcément eh bien, très tranquillisés avec ce qu'il disait, ils se disaient, mais la nation romaine maintenant, ils vont nous éliminer si on casse tout. Hein. Eh oui, si on casse tout ça, ils vont nous éliminer, ils avaient peur. Hein. À tel point que le grand sacrificateur qui s'appelle Caïphe, eh bien, il dira, mais vaut-il mieux qu'un seul homme meure pour sauver la nation entière? C'est pas n'importe qui, hein, Caïphe. Si on passe au deuxième, Barabbas, lui, est un criminel et tout le monde le sait. Oui, c'est un criminel et tout le monde le sait. Tout le monde savait que Jésus était un homme juste. Mais pour Barabbas, tout le monde savait qu'il était un meurtrier. Voilà. Mais la différence, c'est que Jésus, la différence de Jésus, c'est que Barabbas n'apporte pas un programme. Jésus apporte un programme. Convertissez-vous. C'est la régénération. C'est l'adoration de Dieu en esprit, en vérité. Mais notre pauvre Barabbas, lui, eh bien, il n'apporte pas de programme. Il n'a rien dans ses valises. Il n'a rien à dire. Ce qu'il a fait, il a toujours fait mauvais. Et il ne demande qu'une chose, c'est de se faire oublier. Quand il sera sorti de prison, on n'entendra pas parler de lui, c'est fini. Si on le relâche, il disparaîtra. Il prendra tout simplement eh bien, là, l'aventure. Et quand bien même un jour, même s'il n'est pas d'accord, il rencontre un prêtre, il le saluera bien bas. Parce que ça ne gênera pas pour lui, naturellement. Même s'il ne va pas depuis si longtemps au temple. Ce n'est pas Barabbas qui demande l'abolition des mœurs mauvaises et de toutes ces choses abominables. Lui, il ne demande rien, hein, toi, tout ça, naturellement. Et les traditions d'Israël, ça ne le dérange pas pourvu que ce soit les autres qui les mettent en pratique. Ça, c'est Barabbas. Et même, il va se justifier, même s'il a assassiné. C'est parce qu'il est un adepte, en quelque sorte, de la ligne des fanatiques. C'est un patriote, certainement. Et quand il a fait le coup de main contre les Romains, contre les légions romaines, quelques soldats romains qu'il a passés par le couteau, par l'épée, par le fil de l'épée, lui, il se dit, moi j'ai une bonne conscience, hein, les Romains, ce sont nos ennemis, alors on peut y aller. Hein. Eh oui, mais tu ne tueras point, c'est autant celui qui est proche que ton lointain, naturellement. Et il se donne de bonnes raisons, comme beaucoup de gens aujourd'hui, de dire, eh bien, j'ai rien fait de mal. Ah là là, c'est terrible ça. Hein. Vous savez, c'est une conscience relative. On peut faire n'importe quoi. Quand on pense, quand même, quelquefois, les pouvoirs, je suis un révolutionnaire. Mais, c'est vrai. Quand on pense qu'aujourd'hui, on nous désigne, enfin, pas aujourd'hui, mais il y a quelque temps en arrière, allez donc, une centaine d'années, hein, ça devait remonter en 1914, on disait aux gens, les Allemands, ce sont vos ennemis. Hein, alors vous pouvez y aller, mais surtout, ne vous privez pas, hein, allez-y à cœur joie. Hein. Et de l'autre côté, on disait les Français, eh bien vous pouvez y aller aussi. Bah, heureusement que les choses ont changé, parce qu'aujourd'hui on est unis, et ça vaut mieux comme ça, non? Ouais. Et quel langage! Quel. Comment dire, je ne trouve pas les mots. Mais quelle folie humaine, des choses pareilles! Quelle folie! Alors, c'est un petit peu la mentalité de Barabbas, c'est que. Il pouvait se dire tout ça. Et puis il se disait, mais s'il me relâche, un assassin de plus ou de moins sur les chemins de Palestine, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Tout simplement. Ouais. Tout simplement. Et lui, il veut que rien ne bouge. Par contre, il n'y a qu'une chose qu'il veut, c'est d'être libéré. Si véritablement ça penchait du côté de Jésus pour qu'il soit crucifié, ça l'arrangerait bien. Hein. Il pourrait prendre sa place. Eh bien, justement, il pourrait prendre sa place. C'est bien ça la question. La question qui est cachée derrière, finalement, eh bien, cette interrogation. Oui, s'il pouvait prendre ma place, moi je vivrais. Figurez-vous, c'est précisément l'œuvre de Jésus à la croix. C'est que Jésus est mort volontairement pour prendre notre place, que lui, il meurt pour que moi je vive. Et appuyé sur une seule chose, la foi dans son sacrifice, de savoir qu'il est mort pour moi et que je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. C'est ça ce qui me sauve. C'est ça la vérité. Et c'est pour ça que Jésus a été jusqu'au bout. Vous ne pensez pas que Jésus, au moment où il était lié par les soldats, qu'il était même attaché à la croix, même avec les clous dans les mains, il était le Fils de Dieu, il était Dieu lui-même venu sur terre, il aurait pu dire en un instant, en un mot, il faisait voler tout ça. Et il se montrait au monde comme le super-homme. Et là, tout le monde s'inclinait devant lui. Les Romains étaient dans la poussière. Les Juifs, eh bien, étaient aussi dans la poussière. Tout le monde était dans la poussière. Non, il s'est laissé faire jusqu'au bout. Et même, de loin, les disciples qui le regardaient, ils se disaient, mais est-ce qu'il va bouger? Est-ce qu'il va dire quelque chose? Est-ce que nous ne nous sommes pas trompés? Nous avons suivi un homme? Est-ce qu'il est véritablement Dieu? Ouais, ils se sont posé la question. Hein. Mais ils regardaient de loin. Parce que c'est toujours délicat hein, de s'approcher trop près de Dieu et trop près de Jésus. Hein. Des fois qu'il y aura un retour de flamme. Non, il n'y a pas de retour de flamme quand s'approchant de Jésus. Il y a simplement un retour de grâce. C'est tout, et ça change tout, ça. Ça change tout. Alors, entre deux mots, il faut choisir. Il y a d'un côté Jésus, et de l'autre côté, il y a Barabbas. On le voit dans nos alternatives qui sont présentées, sont ramenées à leurs véritables conditions. Barabbas n'est qu'un prétexte. Une occasion et un mot, un nom, en quelque sorte. Qui n'est pas plus que cela. Jésus est tout, mais Barabbas est un prétexte pour tous ceux qui n'aiment pas Jésus, ceux qui veulent se débarrasser de lui. Alors on le dit, crucifie, crucifie-le. Les chefs de la religion israélite savaient pourquoi. Il nous est dit qu'ils le crucifièrent par envie, parce qu'ils avaient de la haine contre Jésus et Barabbas. Non, on s'est servi de lui. C'est en quelque sorte un lampiste, et qui va bien s'en tirer quand même, hein, parce que c'est lui qui va avoir la vie. Un prétexte, tout simplement. En réalité, c'est bien le conflit qu'il y a entre le monde et Jésus. Le monde avec ses lois, le monde avec ses politiques, le monde avec ses habitudes, avec ses coutumes, ses us, à travers ses manières de penser, sa mentalité, sa façon de philosopher, même, nous pourrions dire, sa théologie religieuse. Ah oui, tout ça, c'est dans la même chose, hein, naturellement. Le monde et Jésus. Vous savez, quand on prêche l'évangile, on ne prêche pas autre chose que, finalement, la vérité que Jésus nous a laissée. Hein. Et il y a un choix qui est beaucoup plus grand qu'entre Barabbas et Jésus. C'est le choix et la conscience que nous pouvons avoir du mal qui existe dans ce monde. Oui. Je le dis et je le répète, je l'ai dit souvent, qu'on ne naît pas chrétien, on le devient par une expérience d'une rencontre avec Jésus-Christ. Dixit Nicodème, dixit Zachée, dixit la Samaritaine et bien d'autres. Une rencontre. Et à ce moment-là, comme Paul l'écrira dans les Corinthiens, il dira ceci, oui c'est dans les Corinthiens, dans le livre des Actes, excusez-moi. Dans le livre des Actes, il dira, mais Paul dira, j'ai été envoyé par Dieu pour prêcher le message de Jésus-Christ, le pardon des péchés, afin que les hommes passent des ténèbres à la lumière et qu'ils passent de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Il y a bien là deux mondes, deux patries, il y a deux pays en quelque sorte, il y a deux dimensions. Il y a la dimension charnelle et la dimension spirituelle. Et dans la dimension charnelle, il y a aussi, c'est inclus, c'est la religion des hommes. Mais quand Jésus nous dit que nous sommes appelés à adorer le Seigneur en esprit, en vérité, c'est la dimension spirituelle. Il faut quitter ce monde pour rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pas le même monde. Et souvent, le fonctionnement du monde, eh bien là, est aux antipodes et le contraire de la mentalité et des principes du royaume de Dieu. Jésus nous l'enseigne continuellement dans l'Évangile. C'est dans quelque sorte le conflit entre le moi égoïsme et ce côté mondain des Juifs, ce côté charnel, ce côté de l'âme. Il y a l'esprit et il y a l'âme. Et le prophète, ce fameux prophète qu'est Jésus, qui demandait la transformation totale de notre vie intérieure, c'est ça, c'est toujours ce choix. Alors, emporté par l'excitation d'une émeute, parce que ça allait tourner comme ça, eh bien, nous voyons que le peuple a été mis brusquement en demeure de sacrifier son moi ou de condamner. Tu meurs en quelque sorte à toi-même et tu vis. Ou alors tu gardes finalement ta vie, mais tu la perds. Jésus nous dit d'ailleurs, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? C'est ça le raisonnement qui est donné, tout simplement. Alors, on a condamné Jésus. On a condamné et il est allé jusqu'au sacrifice. Israël a crucifié Jésus, pour le dire. Alors, lorsque nous faisons le bilan de ces motifs réels, l'alternative du prétoire dans lequel nous avons passé quelques minutes là, n'est ni d'un temps, ni d'une race, ni d'une époque. Parce que finalement, ce grand dilemme, ce grand déni de justice, ça s'est perpétué à travers tous les âges et tous les temps, forcément. Et nous la voyons traverser les siècles, traverser les temps, interroger toutes les générations, poser à chacun d'entre nous la question décisive, lequel des deux? Jésus nous dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit vous allez aimer l'un et vous allez haïr l'autre, ou vice-versa. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? On ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu en même temps. C'est pas possible, parce que c'est antinomique. On ne peut pas servir le diable et on ne peut pas servir Dieu en même temps. Donc il y a vraiment ce choix. Lequel des deux? C'est plus Jésus et Barabbas, c'est finalement notre conscience, notre connaissance que nous avons des choses, du bien et du mal, et puis après le choix qui doit être fait. Tout choix porte en lui ses conséquences. Avec cette réclamation qui a été posée, relâche Barabbas, parce que ça a été crié, hein, c'était dit, hein, ils ont crié pour que on relâche Barabbas. Vous savez ce qui va se passer? Ça c'était à ce moment-là. Mais 30-40 ans après qu'il s'est prononcé que le sang de ce juste retombe sur nous et sur nos enfants, ça n'a pas raté. Puisqu'on sait très bien que dans l'an 70, que nous rapporte l'historien Flavius Joseph, nous dit que les armées romaines, commandées par le général Titus, est venue en Palestine. Et là, ils ont tout rasé. Tout, le temple, tout, il ne restait rien du tout. Et ça a été le temps des nations en Palestine. Ça durait 2000 ans jusqu'en 1948, où il y a eu la reconstitution de la nation d'Israël, qui est rentrée tout à fait dans le concert des peuples. Mais 2000 ans d'errance, les juifs partout dans le monde, errant de droite à gauche, que ce soit en Orient ou en Occident, que ce soit partout, dans tous les domaines. Voilà la conséquence pour ne pas avoir choisi le bon. Tout simplement, c'est l'histoire qui nous le dit, je n'invente rien. Alors aujourd'hui, nous avons le choix. Demain, tout ce monde sera anéanti. Alors, je ne vais pas vous faire frémir, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et on est en train de tout faire pour l'anéantissement de notre monde. Il y a eu des sociétés, des civilisations qui ont disparu. Si vous me parlez des Assyriens, si vous me parlez des Babyloniens, si vous me parlez de grandes puissances, de grands empires, les Perses, les Mèdes, l'empire d'Alexandre le Grand et tout ça, qu'est-ce qui reste? Il reste des vestiges. De la poussière au milieu d'un désert, tout simplement. Alors il y a eu ça dans l'histoire, mais la Bible nous le dit depuis le début, depuis le livre de la Genèse, depuis qu'on a eu l'idée de construire Babel, ça c'est une bonne réussite, Babel, il nous est dit qu'un monde, que le monde d'aujourd'hui disparaîtra. si vous lisez l'épître de Pierre, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, si vous lisez même ce que Jésus nous laisse entendre dans ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est un terme théologique qui nous montre que Jésus revient et qu'il revient chercher son Église, il revient chercher ceux qui croient en lui, mais il revient aussi juger les nations, ceux qui auront été incrédules et ceux qui auront refusé sa croix. Parce que c'est ça la question. La question est là. Alors, nous voulons garder le monde. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Parce que qu'est-ce que nous allons perdre? Qu'est-ce que le monde va perdre? Toute la beauté de ce monde, la fortune, le pouvoir, les louanges, de ce savoir sage, intelligent et au-dessus de tout, où nous vantons notre prudence, l'éloquence, la puissance, tout ce qui fait notre mérite aux yeux des hommes, s'évanouira en fumée à un moment donné. C'est ce que nous dit Pierre, naturellement. Et au tribunal de Pilate, aura succédé le tribunal de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça? Eh oui. Si l'homme n'est pas capable de se juger lui-même, eh bien il sera jugé malgré lui. Hein. Et c'est une question de choix. C'est une question de savoir véritablement l'option que nous pouvons prendre pour ce qui est bien ou ce qui est mal. On le voit, l'histoire de Barabbas, pourquoi elle nous a été rappelée? C'est pour nous montrer tout cela, tout simplement. Notre destin de demain dépendra de notre réponse d'aujourd'hui. Ouais. Et Jésus est là. Nous aimons Jésus. Nous aimons sa parole. Nous croyons que sa parole, l'évangile, est la vérité. Elle est la justice. Elle est ce qu'il peut y avoir de meilleur pour les hommes. Mais il y a des hommes qui en veulent et des hommes qui n'en veulent pas. Voilà. Et je crois que, quelque part, nous construisons notre vie nous-mêmes, par les choix que nous faisons. Et je dis bien que ce que nous faisons aujourd'hui aura des répercussions. Et une dernière question, comme nous le chantons dans un cantique, est-ce que Jésus sera ton juge ou est-ce qu'il sera ton sauveur? Ben moi j'ai choisi. J'ai choisi que Jésus soit mon sauveur. Il ne soit pas mon juge. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier quelques instants, si vous voulez. Derrière cette pensée qui m'est venue spontanément juste avant d'arriver à l'église, avant de vous apporter cette parole qui a surgi spontanément dans mon cœur où le Seigneur tout simplement m'a dit « Tu vas parler de Barabbas ». Eh bien, je vous en ai parlé. Que Dieu nous bénisse maintenant. On va prier. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur parce que nous sommes devant véritablement, eh bien là, quelque chose de tellement important. C'est vrai qu'il y a l'histoire de notre monde. Et nous ne voulons pas juger, Seigneur. Nous ne voulons pas juger arbitrairement ou témérairement, parce que nous savons que le monde, Seigneur, eh bien, suit une courbe, il suit un chemin qui, quelque part, n'est pas forcément des meilleurs, mais je crois que dans ce monde, il y a des hommes et des femmes qui vont à un moment donné faire volte-face et qui vont se tourner vers Jésus pour être sauvés. Et puis, il y a notre vie, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Nous sommes devant cette alternative. Lequel des deux? Et c'est vrai, Seigneur, nous croyons que nous, pour nous, personnellement, nous avons à nous engager. C'est pas les autres qui vont le faire pour nous, c'est nous-mêmes. Parce que tu as donné, tu as doté la création, l'homme, ta création, l'humanité qui est ta création, tu lui as doté d'une conscience. Et c'est cette conscience, Seigneur, qui doit être dépoussiérée, qui doit être renouvelée, qui doit être rafraîchie, qui doit être, en effet, sanctifiée quelque part. Et à ce moment-là, eh bien, nous pouvons juger, non pas selon les apparences, mais nous jugeons selon la vérité. Seigneur, tu bénis mes amis qui étaient là ce soir, qui sont là cet après-midi. Accorde-leur ta grâce et ta bénédiction, et qu'ils comprennent qu'il n'y en a qu'un. Ce n'est pas une histoire d'église, ce n'est pas une histoire de centre évangélique, ce n'est pas une histoire de ceci ou cela, c'est tout simplement, eh bien, un choix que nous faisons de Jésus dans notre vie. Et nous te bénissons et nous te remercions. Merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.